Bonsoir. À la suite de l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue, on assiste à l'exclusion de certains cadres de l'opposition par leur plateforme à cause de leur participation à ces travaux. C'est le cas notamment de l'UNC de Vital Kamerhe, exclu de la dynamique de l'opposition, et de l'ATD de José Makila, exclu de l'attenance pour la République. Comment analyser ces exclusions? Nous en parlons avec professeur Alphonse Maindo, il est docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani. Bonsoir professeur Alphonse Maindo.
Bonsoir.
Abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique au Congo et analyste politique. Bonsoir monsieur l'abbé Richard Mugaruka. Voilà, apparemment n'est pas encore là. Et Israël Moutala, journaliste, il est analyste politique et économique. Bonsoir, monsieur Israël Moutala.
Bonsoir.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
L'ouverture des travaux préparatoires du dialogue est effective depuis mardi dernier. Cependant, la participation de certains cadres de l'opposition à ces travaux leur attire des représailles de la part de leur plateforme. C'est entre autres le cas de l'UNC de Vital Kamerhe et les PK des Moins et Congolos exclus de la dynamique de l'opposition, ainsi que l'ATD de José Makila exclus de l'alternance pour la République. Alain Irung pour les détails.
Commençons par le communiqué de la dynamique de l'opposition de ce jeudi dans lequel cette plateforme dit prendre acte de l'auto-exclusion de l'UNC de Vital Kamerhe, du CRP de Fidel Tingomaï, du PK de Moins et Congolo et de l'ATD de José Makila. Professeur Freddy Matungulu, modérateur de la dynamique de l'opposition.
Tous ces groupes aujourd'hui prennent part aux travaux du comité préparatoire du dialogue, alors que la dynamique a indiqué clairement que tant que les préalables que nous avions retenus au niveau du rassemblement ne sont pas réunis, nous ne sommes pas partie prenante à cet exercice.
En réaction, l'UNC, par son porte-parole, dit ne pas être au courant de cette décision. Jolino Makelele.
L'UNC est et demeure membre cofondateur de la dynamique de l'opposition et je ne vois pas en vertu de quelles dispositions, de quels textes l'UNC peut se frayer le plaisir de quitter la dynamique ou même de se faire exclure.
L'ATD de José Makila est aussi exclu de l'Alliance pour la République AR. La décision a été rendue publique hier mercredi à Kinshasa. D'après son président intérimaire, la libre décision prise par le président de l'ATD, traduite par sa présence à l'ouverture des travaux préparatoires du dialogue, est en contradiction avec la ligne politique prise par le rassemblement de l'opposition. Terminons par cette mise au point du groupe parlementaire UDPC allié qui affirme n'avoir mandaté personne au comité préparatoire du dialogue dont les travaux ont débuté mardi à Kinshasa. S'il y a quelqu'un de cette instance, il s'y trouve à titre personnel et ne peut engager notre regroupement, souligne Papi Nyango, le rapporteur de cette structure.
Merci Alain Irung. Professeur Alphonse Maindo, docteur en sciences politiques de l'Université de Sorbonne Paris 1 et enseignant à l'Université de Kisangani, comment vous analysez cette situation?
Merci beaucoup de m'inviter à cette émission. Alors quand je vois cette situation, on est bien au cœur de ce que peut être ou ce qu'est un univers politique. Donc on voit là une traduction de ce qu'on a pu avoir comme des alliances au niveau de l'opposition, des alliances qui sont simplement des alliances opportunistes, j'allais dire, plutôt que des alliances véritablement fondées sur des valeurs partagées entre les différents membres. Et donc, on est dans un contexte où les différentes forces qui composent l'opposition ont un but commun. Le but commun, c'est d'obtenir à ce qu'il y ait une alternance politique, mais en ce qui concerne les stratégies, il y a des divergences. Il y en a qui prennent des actions qui sont donc en totale contradiction avec les buts qu'ils recherchent. Mais alors, la question qu'on peut se poser, mais comment en est-on arrivé là? Comment en arrive-t-on à ce que les gens puissent désobéir, si vous voulez, à un mot d'ordre de leur regroupement politique et de leur rassemblement politique. Eh bien, je pense que là, on peut, et qu'ils violent des règles auxquelles ils ont librement adhéré, ils ont souscrit. Donc, on a là, si vous voulez, quelques explications. Première explication possible, c'est que on est dans une, on pourrait considérer qu'il y a des gens qui ont été travaillés par la facilitation ou la médiation, ou bien qui ont été instrumentalisés par, disons, qui ont été travaillés, démarchés, si vous voulez, par la majorité présidentielle pour donner une certaine crédibilité à ce début du dialogue. Alors, qui n'a pas encore commencé, mais c'est le travail préparatoire. Mais il peut y avoir aussi une autre explication, ce qui est souvent dit. On a des partis politiques qui sont là et on ne mange pas l'opposition, si on veut dire ça comme ça. Une logique alimentaire, j'allais dire. Général, donc, il y avait une logique instrumentale, on peut parler d'une logique alimentaire. Donc, on mange pas l'opposition. Donc, il y a des gens qui se voient bien dans le gouvernement ou qui ont reçu ou qui ont des promesses d'avoir de l'argent, etc. Donc, tout ça, ça peut être. Mais ceci dit, on est dans des alliances politiques. Alors, si je prends les partis qui sont mises sur le banc aujourd'hui, on voit bien que depuis le retour de Ken Tshisekedi, il y a une espèce de fixation sur sa personne et sur ceux qui l'entourent, notamment Moïse Katumbi et les autres. Et donc, là, il y a des gens comme Vital Kamerhe qui se sont retrouvés un peu marginalisés, un peu à l'étroit dans cet espace. Alors, il faut trouver un moyen pour rebondir, pour se mettre en avant dans cette évolution politique. Ah, en répondant présent à la convocation du comité préparatoire, on se donne une visibilité, on se donne un moyen d'action sur les autres. Alors, en dernier lieu, ce que je pourrais évoquer comme explication possible, c'est qu'on pourrait considérer ça comme une espèce de... J'allais emprunter ça à Mathieu Kérékou, hein, l'ancien président béninois, qu'on l'appelait, c'est à l'école du caméléon. Donc, et lui-même, Mathieu Kérékou, il avait été surnommé caméléon. Pourquoi? Parce qu'il avait fait preuve d'une grande faculté d'adaptation aux évolutions politiques de son environnement, de son pays. Voyez-vous, sur le plan personnel, il est passé donc, si vous le ministre le plus intransigeant, au libéralisme le plus pragmatique, et il est passé aussi tour à tour, hein, il était catholique, ensuite animiste, ensuite athée, ensuite musulman, ensuite chrétien protestant. Donc on voit là, si vous voulez, cette capacité, et j'imagine que dans un certain nombre d'hommes politiques qui sont là, il y a cet aspect-là qui mérite d'être pris en compte.
Oui,
de manière globale, pour revenir à l'opposition elle-même, il y a des explications qu'on peut trouver. Si on se réfère, par exemple, à Jean Bachelet. Jean Bachelet, en considérant le pouvoir politique, il dit qu'il y a trois logiques qui traversent le pouvoir. Il y a une logique de puissance, une logique d'autorité et une logique de direction. Alors, lorsqu'on parle de logique de puissance, on voit la force, la violence que le pouvoir utilise, logique d'autorité, là on voit le charisme des chefs, et logique de direction, on voit la compétence. Et donc, en regardant bien, on peut se poser la question, est-ce que dans l'opposition, on a ces éléments-là qui sont réunis pour avoir, si vous voulez, de la force qui puisse dissuader les gens à pouvoir quitter le rassemblement, et qu'il y a un véritable charisme qui puisse rassembler, auquel les gens puissent adhérer émotionnellement, est-ce qu'il y a de la véritable compétence que les gens reconnaissent et qu'ils adhèrent aux décisions qui sont prises, on peut se poser la question ce soir.
Oui, pour faire, comment peut-on, au-delà de ce que vous dites, comment peut-on arriver à concilier discipline et gestion des ambitions au sein d'un parti politique ou d'un regroupement politique?
Vraiment, il est difficile de concilier les ambitions individuelles et la discipline, en particulier lorsqu'on est dans un rassemblement. Dans ces rassemblements, vous avez des personnalités. C'est pour ça que même dans les partis politiques qu'on croit comme étant les partis de cadres, il est difficile de pouvoir les gérer comme dans un parti de masse. Parce que vous avez là des gens qui ont une légitimité personnelle, qui ont leur aura personnelle, qui peuvent donc s'imposer tout seuls, qui sont donc des grandes personnalités indépendantes.
Merci pour ça.
Donc leur discipline ne se fera pas comme la discipline de masses populaires. Et donc, il faut chercher plutôt à savoir quels sont leurs intérêts Et donc, agréger la défense du parti, de l'Rassemblement, autour de ses intérêts.
Rassembler,
d'agréger les intérêts. Oui.
Merci, Monsieur l'abbé Richard Mugauka, professeur à l'Université catholique au Congo et analyste politique. Bonsoir.
Bonsoir.
Et votre analyse par rapport à ces phénomènes?
Je voudrais simplement inviter tous les politiciens à se comporter de manière responsable. Le pays est en difficulté. Cette question électorale est un moment absolument important pour l'avenir de notre pays. Il ne faudrait pas qu'on traite cela avec légèreté. Et tous ceux qui y sont invités devraient y aller et participer à la recherche de solutions qui puissent garantir le meilleur bien-être de la population et du pays. Je crois que c'est très très important. Cette question de personne devient secondaire à ce moment-là. Parce qu'un politicien, on ne fait pas de la politique pour soi-même. La politique est essentiellement un projet collectif, un projet de société. On ne peut le défendre qu'en tant que tel. Ceux qui n'ont que des ambitions personnelles n'ont pas de place dans la politique.
Oui, professeur, peut-on attribuer ce phénomène au déficit, n'est-ce pas, de la tolérance au sein de la classe politique congolaise? Pourquoi il semble difficile aux partis ou aux groupements politiques en RDC de tolérer ou d'encourager l'émergence d'autres idées ou d'autres courants à leur sein? On dit qu'à certains points de vue, la diversité est une richesse. Vous avez dit que la politique, que c'est un projet collectif.
Absolument, la politique est un projet collectif, et qui dit projet collectif ne dit pas unanimité. Et qui dit projet collectif dit aussi possibilité de discussion, possibilité de contradiction, possibilité d'opposition, mais avec toujours comme dénominateur commun la recherche du bien commun, la recherche de la solution la meilleure pour le pays et pour le peuple. Et ça, c'est absolument nécessaire, c'est absolument indispensable. Si cela n'existe pas, il n'existe ni parti politique, ni un engagement politique qui ait un sens. Donc ceux qui font la politique doivent savoir qu'ils sont là pour chercher des solutions consensuelles, mais les meilleures pour le bien-être commun. C'est très important.
Monsieur l'abbé Mugauka, pour les cas de l'UNC, par exemple, qui s'est opposé farouchement et pendant longtemps à l'idée du dialogue, mais qui aujourd'hui soutient cette idée, peut-on parler de la versatilité ou du réalisme politique?
Non, mais il n'y a pas de politique possible sans dialogue. Les partis sont nombreux. Et puisqu'ils sont nombreux, ils sont absolument condamnés à dialoguer. Ils peuvent ne pas être tout à fait d'accord sur tout, mais justement le dialogue c'est pour qu'ils puissent arriver à dégager des listes d'ensemble qui incarnent d'une certaine façon ce que l'on peut appeler le consensus sur le bien commun, le consensus sur ce qui est le meilleur pour le peuple et pour le pays. Mais il n'y a pas de politique possible quand on refuse le dialogue, ce n'est pas possible. Et un parti qui refuserait tout dialogue et qui s'isolerait n'aurait absolument aucun sens, n'aurait même pas de raison d'être. Donc les partis politiques sont faits pour dialoguer, ils doivent dialoguer, et ils doivent apprendre à dialoguer en se posant toujours la question essentielle de savoir quel est le bien, le meilleur pour le peuple, quel est le meilleur bien du pays, parce que c'est pour cela qu'on fait la politique.
Et donc, comme vous le dites, pas des politiques possibles sans dialogue. Cela veut dire que l'actuelle position de l'UNC de pouvoir participer à ces dialogues, ainsi que celle de l'ATD, du PK et d'autres partis politiques, ne peut pas être considérée comme étant une inconstance, mais plutôt du réalisme politique.
Quel réalisme? Il doit participer. Et d'ailleurs, s'il ne participe pas, qu'est-ce qu'il gagne? S'ils ne participent pas, ils gagnent quoi? Parce que puisqu'on crée le pouvoir, ils n'ont pas la majorité du peuple. Ils ont besoin, pour pouvoir participer au pouvoir, de causer, de dialoguer avec les autres. Donc même leur propre bien, la logique même de leur existence, les oblige à dialoguer avec les autres. Celui qui n'accepte pas le dialogue n'accepte même pas le bien de son parti, Donc je crois qu'il faut être vraiment logique et conséquent avec soi-même.
Oui, il faut rappeler que le phénomène n'est pas nouveau. Hein. On a vécu ça avec les concertations nationales, on a vécu ça avec les négociations des Sand City aussi au moment de la conférence nationale souveraine. Monsieur l'abbé, peut-on parler d'une particularité congolaise?
Oui, mais chaque fois que un parti ou un groupe s'est retiré, il a été perdant. Il est grand temps que l'on tire des leçons de la pratique de la politique. On ne peut pas faire de la politique si on refuse de dialoguer avec les autres. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de politique sans dialogue avec les autres. C'est une nécessité, non seulement pour le bien du groupe, du parti, mais aussi pour le bien de la nation, ce qui ne pense que cela permet la confrontation des idées, cela permet de rechercher quelle est la meilleure solution pour tous, et c'est absolument nécessaire puisque c'est la démocratie.
Oui, vous dites que chaque fois qu'un parti s'est retiré, il était perdant, et vous pensez que l'unique solution, parce qu'on les vit dans ces pays depuis toujours, quand un parti semble, n'est-ce pas, se comporter à l'encontre de la ligne de son parti politique, en fait un homme semble se comporter à l'encontre de la ligne de son parti politique ou de la plateforme, l'unique solution, c'est l'exclusion, et souvent les termes qui est utilisé, c'est l'auto-exclusion. Est-ce qu'on ne peut pas trouver une autre solution? On ne peut pas solutionner ce problème autrement?
Quelqu'un qui est incapable de dialoguer n'a pas de vocation politique. La politique n'est jamais, est essentiellement quelque chose de non-individualiste. Celui qui veut avoir des idées personnelles et qui ne veut pas les partager avec les autres, ne veut pas discuter, il n'a qu'à rester chez lui à la maison, ce n'est pas un politicien. Tout politicien normal doit accepter absolument d'aller à la rencontre des autres, de discuter avec eux, de confronter les idées et de dialoguer. C'est une exigence de la nature même de l'être politique. Alors je ne comprends pas des politiciens qui veulent faire de la politique sans discuter, parce que sans ça, si on ne veut pas discuter, alors on n'est faut pas y aller. Voilà.
Oui, vous dites que tout politicien doit savoir aller à la rencontre des autres et afin de pouvoir discuter, mais aussi un politicien qui sait qu'en amont, il a pris des engagements avec ses partenaires politiques, doit savoir aussi qu'avant de prendre une décision, essayer de se concerter avec ses partenaires.
Absolument.
Afin que sa décision
Absolument.
Ne soit pas considérée comme étant une décision unilatérale.
Absolument. Absolument. C'est-à-dire, bon, pour que les décisions puissent se passer, puis pour que les idées puissent être considérées comme valables, il faut qu'elles soient l'expression non pas seulement des pensées, des prises de position personnelles. Il faut que ce soient des idées qui soient l'expression du parti, du groupe. Les gens qui vont discuter, maintenant par exemple, dans le cadre du dialogue intercongolais, ils ne représentent pas avant tout d'abord des idées personnelles. Ils représentent les idées des groupes qui les ont envoyés là-bas. Et donc, ils doivent d'abord se poser la question de savoir en quoi est-ce qu'ils sont fidèles aux idées des groupes qu'ils représentent. Et en deuxième lieu, ils doivent aller là-bas en se posant la question de savoir quel est le meilleur bien du pays. Parce que finalement, c'est là seul qui compte. Et ils vont rencontrer d'autres qui, eux aussi, cherchent le bien du pays. C'est cela qui fait d'ailleurs
Merci.
Le lieu commun entre les politiques et les politiciens.
Merci.
C'est la recherche du bien du pays. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a ni politique ni politicien, et ça ne sert à rien de discuter.
Merci, monsieur l'abbé Mugaruka. Israël Moutala, journaliste et analyste politique et économique. Votre analyse par rapport à cette situation?
Bon, cette situation montre clairement que l'opposition n'est plus unie comme avant. Les intérêts politiques immédiats, les intérêts politiques lointains, justement, a amené une sorte de scission, une sorte de divergence de vue profonde. Mais les exclusions sont quand même aussi le fait d'une certaine intolérance politique. Moi, je ne comprends pas que au sein de plateformes, que ce soit la dynamique, que ce soit l'alternance pour la République, qu'on en arrive à de telles extrémités d'exclusion. Donc ce sont des décisions très fortes. Mais l'alternance pour la République, la dynamique de l'opposition, avait en commun un combat qui était le respect de la Constitution.
avait aussi, entre autres comme objectif, la tenue de la présidentielle dans les délais constitutionnels. Mais l'exigence phare, c'était le respect de la Constitution pour espérer avoir une alternance pacifique dans le pays. Ceux qui ont fait le pari, justement, d'aller au dialogue, d'aller au comité préparatoire, n'ont pas renié, n'ont pas renoncé par rapport à ces objectifs. Ils maintiennent justement leur cahier de charges en termes de respect de la Constitution, en termes de une possibilité d'alternance pacifique. Et donc, en arriver à des exclusions, ou plutôt à des auto-exclusions, une notion plutôt politique et juridique, c'est quand même un signe d'une intolérance. Mais qu'à cela ne tienne, c'était prévisible. Les tensions au sein de ces plateformes sont fortes et elles vont continuer. Il y aura des nouvelles défections, il y aura des gens qui seront amenés justement à rejoindre le dialogue. Moi, pour ma part, mon analyse, c'est que il faut que nous arrivions à faire de la politique un art du compromis. Pas de la compromission, mais du compromis. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de mal à se mettre autour d'une table et à discuter pour essayer de trouver des solutions idoines aux problèmes qui se posent à notre pays, à notre nation. Moi, je pense aussi que l'intérêt général de la RDC, l'intérêt général, le bien public, les intérêts de notre population résident dans une solution consensuelle, dans une solution autour d'une table. Mais ici, justement, j'ai vu, comme tout le monde, beaucoup de critiques envers la frange de l'opposition qui a décidé d'aller au comité préparatoire. Mais de manière réfléchie, avait-elle cette frange de l'opposition qui a décidé d'aller au dialogue, avait-elle un autre choix? Dès lors que la résolution 2277, qui est une résolution fondamentale, c'est elle qui a changé la donne en RDC. Parce que cette résolution recommande justement le dialogue pour mettre fin à la crise actuelle en République démocratique du Congo. On ne peut pas ignorer cette résolution-là. Donc, la politique, comme je l'ai dit, c'est l'art du compromis. La politique, elle est dynamique. Dynamique ne veut pas dire renier ses convictions, ne veut pas dire être versatile. Donc, il y a une donnée importante qui a changé, c'était que la communauté internationale dit qu'il y a une crise profonde, elle en prend acte, elle demande à ce que les politiciens, la société civile se mettent autour du tas pour la solutionner, et elle a mis de garanties. Et moi, je pense que, dès lors, il fallait que toutes les plateformes prennent acte de cette évolution internationale pour s'engager dans la voie du dialogue.
Et donc, vous voulez dire que l'adoption de la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui prônait, n'est-ce pas, les dialogues ainsi que la tenue des élections dans les délais prévus par la Constitution, et c'était une nouvelle donne qui peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, les positions des uns et des autres évoluent.
Fondamentalement, le Caméré qui disait qu'il fallait que Kabila me passe sur le corps pour générer jamais à un dialogue. Mais c'est différent. Il disait cela avant, justement, que la résolution 2277 ne soit pondue par le Conseil de sécurité. Et donc, c'est cette résolution-là qui a même amené aussi, même le G7, justement, à revoir sa position. Parce que, au début, le G7 aussi ne voulait rien en savoir, rien savoir du dialogue. Mais elle avait dit, maintenant, voilà, il y a une résolution du Conseil de sécurité qui recommande à ce que nous allions au dialogue. Mais eux, ils voulaient, justement, un format allégé, bipartite, opposition et pouvoir. Donc, nous sommes dans un schéma qui aimerait que les gens ne soient plus statiques, figés sur leur position. Ils doivent tenir compte, justement, de la résolution 2277. L'ignorer serait absolument suicidaire.
Mais apparemment, ce point de vue n'est pas partagé par le Rassemblement qui ont posé, n'est-ce pas? Ils ont posé un certain nombre de préalables, ils y tiennent mordicus.
Non. Les préalables du Rassemblement sont fondés. Il y a des prisonniers politiques dans ce pays. Il faut pas se leurrer. les poursuites judiciaires à l'endroit notamment de Moïse Katumbi sont motivées politiquement. Les harcèlements fiscaux de Fayoulou ou de Lissanga, bref, des autres politiciens, c'est bien sûr qu'il y a une main politique là-dessus. Il n'y a aucun doute que les préalables posés par le Rassemblement sont fondés et le gouvernement doit absolument répondre à ces préalables-là, les évacuer pour les crisper là. Donc là-dessus, il n'y a aucune concession. Mais les autres qui participent au dialogue sont d'accord avec ces préalables. Ils ont dit on va en parler justement au comité de travaux préparatoires. Donc ils sont totalement en phase avec les autres.
Merci, professeur Alphonse Maïndo. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Bukavu, au Sud-Kivu.
Je suis Fabien Makumaini, je vous appelle depuis Bukavu, dans la province du Sud-Kivu. Cette situation qui se passe au sein de l'opposition est-il preuve que celle-ci n'est pas encore prête pour affronter à responsable les grands rendez-vous politiques tels que les dialogues, les élections et même la mobilisation citoyenne qu'elle réserverait comme la dernière cartouche ne restera qu'un rêve collectif vu les nombreuses divergences internes. Car comment comprendre que ceux qui hier étaient opposés à ces dialogues soient aujourd'hui les plus grands défenseurs et ceux qui hier les défendaient soient les plus grands absents? Pouvons-nous parler du retour des enfants perdus? Car la majorité d'opposants qui ont accepté de participer aux travaux préparatoires sont les anciens sociétaires de la majorité présidentielle. À tout, la conférence nationale souveraine est en train de réécrire certaines de ses pages sous le nom dialogue avec presque les mêmes acteurs et même ses maris. On aura tout vu le Congo.
Oui, professeur Alphonse Maïndo.
Oui, merci bien. Alors, j'ai bien compris la préoccupation de notre compatriote de Bukavu. Mais peut-être avant de lui répondre, j'aimerais quand même préciser quelques éléments. Il me semble que tous les partis politiques de la majorité, aujourd'hui, sont d'accord qu'il faut faire un dialogue, qu'il faut dialoguer. Et là où ils ne sont pas d'accord, c'est les conditions dans lesquelles le dialogue doit se dérouler. Par rapport à ça, mais aussi la médiation, la facilitation de ce dialogue. C'est sur ce point-là qu'il y a des divergences entre les différents partis. Donc on ne peut pas dire que ceux qui sont allés au comité préparatoire sont pour le dialogue et les autres sont contre le dialogue. Non, tous sont, si vous voulez, acquis au dialogue. Et pour répondre maintenant plus précisément à notre compatriote de Bukavu, évidemment, aujourd'hui, le dialogue semble pratiquement incontournable, puisqu'on est là à la fin du mois d'août. Et les élections, si elles devaient avoir lieu, elles devaient avoir lieu en novembre. Or, dans deux mois, c'est impossible de pouvoir faire toutes les opérations électorales qui sont nécessaires pour qu'on puisse élire notre président en novembre et en décembre et puisse avoir le président. Donc, c'est impossible de faire ça. Et donc, comme c'est impossible, il faut maintenant qu'on trouve des solutions pour que la tension politique et pour que la situation qui semble assez volatile ne puisse pas empirer. Et donc, on est obligé de pouvoir négocier. Et d'où l'intérêt de faire des dialogues. On ne peut pas. Il ne s'agit plus ici de dire j'étais contre ou j'étais pour. Il s'agit de voir maintenant comment on peut sauver cette nation, comment on peut sauver cette patrie qui est actuellement dans une situation d'impasse. Alors, pour repartir, je dirais que. Si je paraphrase René Dumont qui, dans les années 60, disait que l'Afrique était mal partie. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que le dialogue est mal parti, puisqu'il devait unifier, il devait unir, mais au contraire, là, on voit que ce dialogue est en train de diviser les gens. Alors pourquoi on arrive à des divisions, à des scissions, pourtant on devait avoir l'union? Et il peut y avoir soit c'est une question d'homme, c'est-à-dire on peut voir du côté de la médiation, est-ce que la médiation est à la hauteur pour pouvoir ramener tout le monde autour de la table ou pas. Et on peut aussi se poser, est-ce que la question de la bonne foi des partis prenants, est-ce que les partis d'opposition, de la majorité, tout ça, sont de bonne foi ou de mauvaise foi pour peut-être que la question se trouve là. Mais ça peut être une question de méthode. Est-ce qu'il y a la méthode utilisée pour convoquer, pour organiser ces travaux, elle est appropriée ou non? si elle n'est pas appropriée, donc il faut le repenser. Peut-être même pire, on pourrait avoir les deux explications ensemble, c'est-à-dire il y a à la fois question d'homme, donc médiation et mauvaise foi des parties prenantes, mais également les questions des méthodes qui n'est pas appropriées pour faire partie. Je me souviens bien que la CENCO, la conférence épiscopale nationale de l'Église catholique, avait entrepris des consultations pour aider à ce qu'il y ait un dialogue inclusif et pacifique, apaisé. Mais il me semble que ces recommandations n'ont pas encore été transmises. Merci au niveau de la médiation. Alors comment on peut convoquer le dialogue dans ces conditions-là? Alors, il y a des parts et d'autres des responsabilités qui peuvent être mises sur la table. Il faudrait tout le moins que l'on puisse se remettre en question, aussi bien du côté des parties prenantes que du côté de la médiation, pour voir comment on peut donner une chance à ce dialogue.
Merci pour ce monsieur l'abbé Richard Mugaruka. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Goma, au nord qui vous.
C'est Thomas Mathieu Bichogui à partir de Goma. Ceux-là qui pleurnichent ont comme chef, tu te l'as dit, le lanceur des mots d'ordre. Or, Kamere est un chef autonome. Donc, lui, il fait la passe compte à rendre à qui que ce soit. Quand tu te dis envoyer des délégués rencontrer ceux de Kabila à Ibiza et à Venise, en cachette, Kamere ne lui demande pas de compte. Que tout se calme.
Oui, monsieur l'abbé Richard Mugaruka.
Ben, je n'ai pas très bien compris la question. Il y a un dialogue qui s'annonce. Et je pense que le mieux, c'est que la plupart de tous les participants se mettent d'accord pour y aller avec volonté de chercher la solution la meilleure pour le pays. Je pense que c'est ce qu'il faut dire. Pour le reste, c'est ce qui s'est passé avant devrait être relativisé maintenant que l'on veut aller dialoguer. Il faut, je crois, donner la chance à ce dialogue-là et chercher avant tout quelle est la meilleure solution pour le pays.
Oui, notre ami de Goma disait ceci, ceux-là qui pleurnichent ont comme chef, tu sais qu'il dit, les lanceurs des mots d'ordre. Or, Kamere est un chef autonome, donc l'UNC n'a pas de compte à rendre. Quand tu sais qu'il dit, envoyer des délégués, rencontrer ceux de Kabila, Ibiza et à Venise en cachette, Kamere ne lui demandait pas de compte, que tous se calment.
Non, mais si on veut aller dialoguer, je pense qu'il faut y aller de bonne foi. Et essayer de mettre entre parenthèses ou de ne pas tenir compte des états d'âme. Hein. Si on veut dialoguer, il faut absolument qu'on soit de bonne foi et que tout le monde y aille positivement. Si on commence à douter les uns des autres, le dialogue devient impossible. C'est très important que ceux qui vont aller dialoguer commencent par une sorte d'acceptation les uns avec les autres. C'est une condition essentielle à tout dialogue.
Alors, à votre avis, comment peut-on arriver à créer une sorte d'unanimité au sein de l'opposition au sujet des préalables? Vous avez suivi M. Israël Moutala, et tout le monde tenait à ses préalables et continue à tenir à ses préalables, mais il y en a qui estiment que ces préalables doivent être accomplis avant, n'est-ce pas, d'aller participer à ces dialogues. Et il y a de l'autre côté ceux qui estiment que ces conditions ne doivent plus continuer à être considérées comme étant des préalables. On doit les amener, n'est-ce pas, au sein du comité préparatoire pour essayer d'essayer de trouver des solutions à cela. Comment on peut arriver à concilier ces deux points de vue?
Si j'ai bien compris, ces préalables sont parmi les questions à régler pour rendre la discussion et le dialogue possible. Alors bon, il n'ont qu'à les régler, voilà, c'est tout. À ce niveau-là de la préparation du dialogue, justement, il est normal que l'on puisse poser des conditions si on en a. Mais le plus important, c'est qu'on trouve surtout des solutions. Que ces conditions-là ne soient pas l'occasion de mettre en péril le dialogue lui-même. On pose des conditions pour justement chercher à trouver des solutions. Des solutions qui puissent rendre les dialogues possibles. Si il faut régler certains problèmes, ben qu'on les règle, voilà. C'est à cela que doit servir justement le pré-dialogue.
Monsieur l'abbé, tout ceci ne donne-t-il pas des idées au camp adverse? Est-ce que le pouvoir ne peut pas s'en servir pour fragiliser davantage les actions de cette opposition?
Mais Comment, dans quel sens?
Oui, parce que on sent qu'il y a des divergences de vie au sein de l'opposition et le pouvoir peut exploiter ces divergences de vie pour justement fragiliser cette opposition.
Mais si on va dialoguer, je suppose que on ne parle pas de l'unanimité. Dialoguer, c'est partir du constat du fait qu'il y a plusieurs idées différentes. Lorsqu'on va dialoguer, ça signifie qu'on n'a pas les mêmes idées. Si on a les mêmes idées, on ne dialogue pas. On est d'accord, donc il n'y a pas de sujet de dialogue.
Justement,
un dialogue, ça signifie que l'on accepte qu'au départ, il puisse y avoir des contradictions, qu'il existe des contradictions. Et ces contradictions, pour ce qui nous concerne ici, peuvent porter sur les questions là que vous venez de poser et qui doivent pouvoir, selon moi, faire l'objet de discussions qui vont avoir lieu et au niveau de la préparation, surtout au niveau de la préparation, et surtout qui doivent avoir été résolus avant que le dialogue lui-même n'ait lieu.
Oui, Monsieur l'abbé, je pose ma question autrement. Lorsque l'opposition sera en dialogue avec ses contradictions, ses divergences de vues, elle risque d'être en face d'une majorité qui est en bonne posture. C'est-à-dire que cette opposition peut venir dialoguer en position de faiblesse et elle n'aurait pas assez de marge de manœuvre, n'est-ce pas, pour essayer de faire passer ses idées.
Je vous ai entendu quelqu'un parler des méthodes de travail lorsqu'il s'agit d'un dialogue. Dans tout dialogue, il y a une question de méthode de travail et les différents protagonistes doivent pouvoir en tenir compte. Lorsqu'on va dialoguer, il faut savoir ce que l'on veut. Il faut savoir avec qui on est. Il faut savoir quelles sont les concessions qu'on veut faire. Il faut savoir comment on va procéder. Je suppose que ceux qui vont dialoguer ne sont pas des enfants de cœur, ce ne sont pas des apprentis. Ce sont des gens qui sont habitués au dialogue politique et qui savent que si vous y allez comme groupe, il vaut mieux commencer par avoir un consensus sur vos idées, si vous voulez les défendre. Mais que, pour moi, qu'il puisse y avoir des contradictions et que ces contradictions soient discutées dans le dialogue, ça me paraît tout à fait normal.
Israël Moutala, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Kinshasa.
John Kamangou, depuis la ville de Kinshasa. Le problème en RDC, c'est l'inconstance liée à l'opportunisme de nos politiciens qui changent de couleur selon les enjeux du moment aux intérêts privés. Certains sont même prêts à trahir leur propre conscience, voire la ligne de conduite de leur regroupement, juste pour trouver satisfaction à leurs besoins égoïstes, même s'ils ne cadrent pas avec l'intérêt populaire. Ceci étant, tant que les antivaleurs comme la corruption, le détournement, l'injustice et autres ne seront pas combattus et punis dans notre pays, les pratiques de ce genre seront très récurrentes. Ainsi, comment taxer la majorité présidentielle de n'avoir pas respecté la Constitution issue d'un compromis national, alors que soi-même on est incapable de respecter la ligne de conduite d'un groupe restreint?
Israël Moutala.
Mais c'est ce que je dis, vous avez une vision rigide justement de la politique. Comme je le dis en introduction, la politique c'est l'art du compromis. Justement, on a une crise politique justement qui va en s'aggravant. Il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est justement aller dialoguer avec ceux-là qui ont créé la crise. Sur les responsabilités par rapport à l'origine de la crise, elles sont établies. Et donc c'est la majorité présidentielle, c'est le pouvoir qui a bloqué. Et donc, il y a des tentatives, la Constitution, il y avait l'enjeu du pouvoir. Donc, la majorité présidentielle avait peur de son avenir, le président de la République avait peur de son avenir, il était fin mandat. Bref, donc, ils ont échafaudé plusieurs scénarios pour contourner la Constitution, mais grâce à la vigilance de la société civile, grâce à la vigilance justement même de nos politiciens, de l'opposition, et tout. Ces tentatives se sont révélées vaines. Mais la crise est quand même là, il faut la résoudre. On est devant un fait. Il n'y aura pas une possibilité d'organiser la présidentielle cette année-ci. Qu'est-ce qu'on fait? On se met d'accord sur le calendrier, on se met d'accord sur la petite période technique qui va pouvoir, séparer le moment où on décide, où on établit le calendrier et la réalisation de ce calendrier-là. Donc, il faut que les politiciens se parlent. Cette crise, c'est vrai qu'il y a des dissensions dans l'opposition, mais les partis politiques sont d'abord libres avant tout. Et donc, quand ils adhèrent à des regroupements, c'est par rapport à des objectifs précis. Dès lors que ces objectifs ne cadrent plus avec les enjeux de l'heure, ils sont tout à fait libres de reprendre leur liberté. Il ne nous a pas échappé aussi que les dissensions sont aussi du côté du pouvoir. L'absence de Kengo, qui est membre du gouvernement, nous révèle que le pouvoir ne voit pas la chose, au sein du pouvoir, on ne voit pas les choses de la même façon. Et donc, il faut essayer un peu de relativiser. L'inconstance, vous allez voir, c'est par rapport aux résultats. Attendons de voir les résultats du dialogue. Est-ce qu'on se mettra d'accord sur le respect de la Constitution, dans l'esprit de cette Constitution? C'est un mandat unique de 10 ans, découpé en deux tranches. Et donc, est-ce que ça sera respecté? Si c'est respecté, tant mieux. Et est-ce qu'on peut trouver un calendrier consensuel? Si on arrive à un calendrier consensuel, tant mieux, on avance. Évitons une crise de trop à ce pays.
Alors, avec ce qui se passe actuellement, comment vous entrevoyez l'avenir de l'opposition congolaise? Vous savez que il y a des échéances importantes, n'est-ce pas, qui attendent cette opposition, notamment les prochaines élections. Comment vous entrevoyez l'avenir de cette opposition?
Bon, il y aura toujours une opposition dans ce pays, mais cette opposition va se reconfigurer. Il y aura des alliances qui vont se faire, il y a des alliances qui vont se défaire, et donc les lignes politiques vont bouger. Et donc l'opposition, c'est ça, elle est dynamique, l'opposition, elle est plurielle, donc il y aura peut-être deux ou trois pôles d'impulsion de cette opposition. C'est le pluralisme politique qui veut ça. Et la clarté du jeu politique se fera justement par le jeu électoral. C'est pourquoi il faut en vouloir beaucoup au pouvoir qui n'a pas organisé les élections, qui n'a pas permis à ce que les élections s'organisent de manière régulière. Parce que la régularité du système, du cycle électoral permettra justement d'assainir un peu la classe politique pour savoir qui vaut quoi, qui peut faire quoi, qui est représentatif de quelle opinion dans quel coin du pays. Et donc là, on a un peu une inflation de la classe politique, de partis politiques, pour certains qui ne représentent absolument rien sur le plan politique.
Professeur Alphonse Mahindo, comment vous entrevoyez l'avenir de cette opposition congolaise? Ça sert aussi votre conclusion.
Bon, voyez-vous, il n'y a pas une opposition congolaise, il y a des oppositions congolaises, il y a plusieurs catégories d'opposants, plusieurs catégories. Donc on ne peut pas parler d'une opposition. Donc il y aura toujours une opposition dans ce pays, et je voudrais rappeler que le monde politique, c'est un monde de passion, dans le sens de l'idée d'excessivité. Les gens vont voir les symboles, et donc les symboles, ça compte beaucoup. Quand on pose des gestes, on voudrait que ces gestes-là puissent parler aux gens. Et c'est pour ça qu'il y a une partie de l'opposition qui pose ces gestes pour parler aux gens, pour montrer qu'ils sont encore, qu'ils sont, donc, si vous voulez, en adéquation avec les aspirations d'une bonne partie de notre population. Alors, je voudrais quand même, pour conclure, puisque nous sommes à la fin, évoquer notre histoire. Il faudrait que nous puissions avoir une bonne mémoire nationale, une mémoire collective. Souvenons-nous, dans les années 60, il y avait eu des émeutes de Stanleyville en octobre 59. Et Lumumba avait été arrêté, envoyé en prison à Elisabethville. Et il y avait eu des tas de gens qui avaient été convoqués à Bruxelles. Et tous les partis politiques, tous les leaders congolais qui étaient réunis à Bruxelles, ils avaient dit « on ne peut pas continuer les travaux
sans
qu'on ne
libère
pas ». Notre compatriote Lumumba. Et comme ils ont parlé d'une seule voix, ils ont oublié leurs initiés. Ils ont oublié leurs...
Merci, professeur. On n'a plus assez de temps. Merci, professeur. Monsieur l'abbé Mouraouka, votre conclusion.
Oui, je voudrais rappeler à tous les Congolais qui sont engagés dans ce dialogue que le moment est grave. Et que on a commis une faute grave. Nous sommes dans une crise. Une crise qui est liée au fait qu'on n'a pas respecté les calendriers électoraux constitutionnels. Et cela doit être non seulement pris en considération, mais aussi sanctionné.
Merci.
Il faut qu'on dise qui est responsable de ça et que celui-là doivent y répondre, doivent être sanctionnés.
Merci, Zahir Moutala. Un mot en guise de conclusion.
Je pense que le gouvernement gagnerait en crédibilité et en apaisant la situation en répondant à tous les préalables.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci, merci à Sylvain Matundou qui était à la technique. Merci à toute l'équipe Dialogue Inter-Congolais, Alain Rung, Kelly Kouté, Berry Franklin, Loutiaka, sous la supervision des Pélé Kipé Lamondo, à la présentation Guy Maté. Merci et bon suivi de programme sur Radio Capi.